Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, bienvenue sur le pont de ce cargo nommé Radio Caroline, qui est arrimé à un quai, aujourd'hui celui de l'East River, le long de Manhattan à New York, mais qui ne va pas tarder à partir pour Londres. Et ce, en compagnie d'une certaine Angela Jagger. Vous ne la connaissez pas, normal, c'est, pourrait-on dire, une anonyme, qui vient pourtant de signer un livre titré I Feel Famous, Punk Diaries, 1977-1981, compilation de ses journaux intimes étourdissants et créatifs publiés en anglais, pour l'instant en tout cas, par les éditions H&B. Dans la seconde moitié des 70s, Angela fut une adolescente américaine passionnée, irradiée par le mouvement punk dès ses premières vagues, avant qu'elle ne s'y engouffre véritablement, passant ses soirées, ses nuits, chaque minute de son temps libre, à ratisser les concerts et à frayer avec les groupes à New York d'abord, puis très vite à Londres. Aujourd'hui, âgée de 65 ans, elle nous offre, avec cette publication illustrée de photos, mais aussi de dessins et portraits colorés au crayon, une immersion non seulement dans la vie au jour le jour des acteurs, entre guillemets, de ce mouvement, les groupes et celles et ceux qui les entouraient, mais aussi au cœur des émotions et sentiments livrés sans filtre d'une adolescente fan de musique. C'est souvent très éclairant, palpitant, mais aussi parfois résolument rough. Par exemple, le 9 mai 1977, à propos d'un concert de Brian Ferry et des Talking Heads, sold out et auquel elle ne peut donc pas assister, elle note furieusement: merde, putain, pisse à ne plus en finir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que donner des coups de pied et jurer parce que je peux pas y aller? Je chie des briques. Avant de nous glisser dans le journal et les souvenirs passionnants de cette américaine, de replonger à hauteur d'adolescente, de fan éclairée dans ce que fut ce tourbillon punk à New York, mais aussi, surtout, à Londres, où elle croisera souvent backstage et plus souvent encore au bar tant de légendes, puis de la suivre au cours des quelques années qui suivront, plantons d'abord le décor pas banal de la vie de cette jeune fille, l'occasion d'y respirer quelques bonnes bouffées du New York des années 60 et 70. Car c'est à New York, dans l'East Village, qu'a grandi Angela Jagger, au sein d'une famille relativement progressiste. « La plupart des membres de ma famille élargie sont nés et ont grandi à New York », écrit-elle en préface de son livre « I Feel Famous Punk Diaries ». On peut donc dire que nous étions de vrais New-Yorkais, un terme qui nous procurait une certaine fierté. Mes parents ont emménagé dans East Village au début des années 50, non seulement parce qu'ils étaient attirés par l'idée de vivre dans ce quartier très artistique, mais aussi parce que c'était relativement abordable à l'époque. Notre appartement était orné de nombreux tableaux, ceux de mon père, mais aussi de mon grand-père maternel, George Picken, qui avait régulièrement exposé dans une galerie de Madison Avenue, aux côtés de ses contemporains, et notamment d'Edward Hopper. Mon père avait étudié l'art à son retour de la guerre en 1945 au Black Mountain College, où il rencontrera ma mère. Leur expérience d'étudiant les a durablement marqués, tout comme leur appartenance à la communauté progressiste de Black Mountain. C'était une source de fierté pour eux d'avoir fréquenté une université aussi légendaire, et cela l'était certainement pour ma sœur, mon frère et moi. Le Black Mountain College auquel fut consacré il y a quelques saisons un épisode de Radio Caroline que je ne manquerai pas de rediffuser un de ces quatre. Mes parents se sont mariés en 1950, poursuit-elle en avant-propos, puis ont passé un an à Paris. Mon père a eu l'opportunité d'étudier la peinture à l'atelier de Fernand Léger, une expérience qui a évidemment changé sa vie. Il a ensuite fait carrière dans l'édition et la publicité chez Time Inc., notamment pour les magazines Fortune et Sports Illustrated, ainsi que pour Scientific American. Ma mère, d'une rare beauté, fut secrétaire au magazine Esquire pendant un temps, avant de devenir mère à temps plein pour élever ses trois enfants. Je suis la plus jeune. L'art a fait partie intégrante de notre vie, poursuit Angela Jagger. Il y avait toujours des disques qui passaient sur une platine ou une autre, des tubes de variété, du jazz, du classique, du psychédélique et plus tard du reggae et bien sûr du punk. Au cours de mes années de lycée, après le divorce de mes parents en 1971, j'ai vécu avec ma mère dans ce grand appartement d'East Village qui se trouvait au 6e étage d'un immeuble à l'angle de la 2e avenue de la 11e rue. Les fenêtres donnaient au nord avec une vue dégagée sur l'Empire State Building et à l'ouest, juste en face, sur l'église de St. Mark. Dans les années 70, la 2e avenue était encore pavée et on entendait le grondement des taxis à damier filant à toute allure vers le centre-ville. Les Hells Angels aussi qui faisaient rugir leurs moteurs et les pompiers qui faisaient retentir leurs sirènes. C'était un endroit bruyant, mais il y avait beaucoup de choses à regarder par les fenêtres, tout ce défilé de la contre-culture. De fait, Angela est très vite fascinée par les beatniks et autres marginaux, prostituées comprises, qui errent devant chez elle. Adolescente, elle prendra des cours de chant et formera un groupe avec son cousin. Mais c'est tout son environnement qui va participer à son enrichissement musical autant qu'à sa culture. Dans l'univers de l'adolescente qui est devenue Angela Jagger au milieu des 70s, il y a le James Pub, célèbre magasin de journaux et de friandises situé au coin de St. Mark's Place et de la 2e avenue, près de chez elle, boutique jadis fréquentée par les hippies et où elle feuillette les journaux à la recherche d'articles sur les musiciens auxquels elle s'intéresse désormais. Je me souviens aussi très bien du jour où les sœurs Tish et Snooki ont ouvert leur boutique Manic Panic sur St. Mark's Place, une friperie gorgée de trouvailles vintage, d'invendus des années 50 et 60, mais aussi de teintures capillaires importées d'Angleterre et qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Et puis, il y a le petit ami de sa mère qui rapporte des magazines musicaux à la maison, ou encore son frère aîné, Niles, qui débarque un jour avec le premier single du groupe Television, Lil Johnny Jewel. En 1976, écrit-elle encore dans la préface, un an avant l'obtention de mon diplôme du lycée, mes goûts musicaux ont commencé à évoluer, mon style aussi. Je me suis coupé les cheveux en frange, j'ai commencé à me maquiller, j'ai découvert tout ce que je pouvais sur la musique punk. Je me suis aventuré au CBGB, ce fameux club, sans connaître personne, tout en gardant un œil sur les créateurs de la scène de mon quartier de l'East Village. J'ai commencé à dessiner au crayon des musiciens que je voyais en photo dans le magazine Rock Scene et à prendre des autoportraits au photomaton où je jouais avec mon identité de fan de rocker. Comme je me questionnais et ressentais le besoin de relater mes transformations, écrire mon journal intime m'a amplement donné l'occasion de me forger une place d'observatrice, de passionnée et d'actrice de cette nouvelle scène. J'essayais de convaincre mes copains de lycée de m'accompagner au CBGB, mais quand j'apportais des disques de punk pour les passer pendant la pause déjeuner, les autres me demandaient d'arrêter ces conneries. Enfin, pas tout le monde. Mon amie Marguerite était curieuse de découvrir cette nouvelle musique, elle aussi. Et nous sommes donc allés voir quelques concerts ensemble, dont un particulièrement mémorable, celui de Deaf School au CBGB. Il n'y avait presque personne dans le club et quand le chanteur Enrique Cadillac a sauté sur notre table et a chanté en nous fixant, nous avons cru mourir. À cette époque, mes journaux intimes sont devenus plus observateurs et un peu moins préoccupés par l'opinion des autres. Extrait daté du 7 avril 1977. C'est dingue comme la musique peut me passionner, et les styles aussi. Aujourd'hui, je suis passé au CBGB pour acheter des posters. Mes goûts ont changé ces deux dernières années, et c'est ici que ça se passe. C'est intriguant, c'est peut-être stupide, mais c'est cool, c'est bruyant, c'est métallique, c'est assez dur. Tout cela, c'est mon impression de ce qu'on appelle le rock underground, les punks ou le hard rock. Un voyage captivant. Mon grand frère Niles me trouve idiote d'aimer ça. Je pourrais le taquiner en lui disant qu'acheter 4 albums de Roxy Music en une semaine, c'est tout aussi extravagant.
Radio Caroline. Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Repensant aujourd'hui à l'ado qu'elle était la nuit dans les rues de New York, Angela Jagger glisse. Je revois cette jeune fille se promenant dans le quartier de Bowery en talons hauts pour voir et rencontrer des rockers purs et durs comme Didi Ramone, fondateur des Ramones, mais aussi Steve Bates. Bates, futur Lord of the New Church, mais à l'époque, en 77, chanteur et guitariste de l'un des groupes punk US les plus violents, les Dead Boys, vu par Angela le même soir que les Damned. Mais les Dead Boys, les voici. En l'espace de 6 mois environ, se rappelle-t-elle, j'étais passé du pantalon pas def au pantalon de peintre teint en noir que ma grand-mère Viola avait retouché pour qu'il soit bien serré. Lorsque j'ai reçu mon album photo de fin d'études en juin 1977, j'ai regardé le cliché de moi pris plus tôt cette année-là, portant un manteau afghan, et je me suis demandé « qui est cette fille ?» Désormais, je posais devant le miroir, contemplant une version exagérée de moi-même, les cheveux crêpés et un sac poubelle noué autour de la taille. C'était ma façon de passer à l'âge adulte, alors que j'avais 16-17 ans. À 17 ans, justement, déjà doté d'une sorte d'instinct journalistique et avide de tout documenter, Angela ne sort plus sans son petit magnétophone pour enregistrer des groupes et extirper quelques mots, parfois plus, aux musiciens qu'elle aborde. De petites interviews qu'elle fait pour son plaisir. En général, je demandais aux membres du groupe ce qu'ils préféraient dans la vie. Quand j'ai demandé à Lux Interior, des Cramps, quelle était sa machine préférée, il a répondu « le jukebox ». Sa texture préférée, la peau. Et The Cramps au CBGB. À l'époque, eh ben ça donne ça. Le bouillonnement londonien en 1977, Angela le capte principalement via la presse musicale britannique, les exemplaires du New Musical Express et du Sounds qui arrivent au James Spa avec 2 semaines de retard. Elle y voit Johnny Rotten en couverture, des photos des Clash. Ah, ses vestes, ses pochoirs, j'étais sidéré. La créativité visuelle, les personnages. New York était si différent avec ses bikers, l'imagerie des années 50, glamour, cuir, jeans noirs. Les Clash, elle les pistera un soir à New York, comme elle le note dans son journal, le 2 septembre 1978. J'apprends que les Clash mixent des vinyles en ville. Le soir, au CB's, je jette un coup d'œil à Cheetah qui discute avec un type aux cheveux longs. Je me demande qui c'est, je regarde de plus près et je réalise que c'est Mick Jones. Et là, la fête commence. Je lui dis que Clash est mon groupe préféré. Il pointe Joe Strummer, qui est un peu plus loin, et d'emblée me demande « Tu veux faire une partie de flipper ?» Alors on s'est mis à jouer et j'ai gagné. Pendant ce temps, un gars lui a demandé « Tu vas bientôt jouer à New York ?» Joe a répondu « Si on ne se sépare pas avant. » Je tire une taffe du mélange de tabac et d'herbe de Mick. Walter Liu, guitariste des Heartbreakers, fume des clopes et admire ma veste. Joe et moi parlons d'Elvis de 1977, de Jimmy Carter, du World Trade Center, des Cramps. Au moins 20 minutes de conversation dont je ne me souviens plus très bien. Puis il m'a regardé et m'a demandé mon âge. Je lui ai dit 18 ans et il a souri. Un mois après avoir croisé Mick Jones et Joe Strummer au CBGB, l'obsession d'Angela, partir à Londres, se concrétise enfin. Elle y atterrit le 5 octobre 1978 avec sa grande sœur, qui a déjà étudié en Angleterre, et y restera pour son premier séjour tout l'automne. Elle raconte.
Well, it really became a driving desire because as soon as I discovered punk, I knew.
C'était un désir irrésistible. Bien sûr, New York était fun, fantastique, mais dès le moment où j'ai découvert le mouvement punk, l'Angleterre, c'était là où il fallait aller, où se trouvaient les disques, les premiers disques punk que je me souviens d'avoir achetés.
And in a lot of ways, those were the records that I first bought, that I remember buying. Back then, it was.
Partir à Londres depuis New York, ce n'était pas comme aujourd'hui où tout le monde peut voyager. C'était quelque chose à l'époque et tellement excitant de pouvoir aller dans des endroits au sujet desquels j'avais lu des articles, comme King's Road, par exemple.
Of course, you know, the King's Road. It had exploded. It really was kind of huge. So you would go to.
Le mouvement avait totalement explosé. Il y avait tous ces concerts à l'Electric Ballroom, au Music Machine. Il y avait plein de punks. C'était fabuleux, tellement différent de New York. C'est aussi en Angleterre qu'elle s'éprendra du groupe punk féminin The Slits, les Fentes, se liant d'amitié avec le binôme leader Harry Up et Viv Albertine. Je n'avais jamais vu de fille comme ça, se souvient Angela Jagger, précisant qu'à l'époque, aux États-Unis, les modèles féminins, c'était au pire les comédiennes en lycra de la série policière glamour Charlie's Angels, drôle de dame, ou au mieux les musiciennes des Runaways, groupe rock qu'elle avait aimé, mais somme toute quand même assez classique. Alors bien sûr, se frottant au milieu punk et à ses leaders, Angela et ses comparses seront confrontés à la drogue, à la violence des skinheads, aux agressions au couteau, à la présence inévitable de prédateurs, comme on dirait aujourd'hui, tournant autour de ces jeunes femmes. Bien sûr, ils vous mataient, dit-elle, mais j'avais toute ma tête, je ne me laissais pas faire. Et puis, j'ai eu de la chance, je crois. si les journaux intimes, ces Punk Diaries que vient de publier Angela Jagger, offrent un angle inédit sur le mouvement punk et la façon dont on le vit à New York et Londres quand on a 16, 17, 18 ans, s'ils éclairent au fil des pages, des semaines, des mois, des années, la transformation d'une adolescente en colère vers une jeune fille à l'assurance réfléchie, ils accompagnent aussi l'évolution de la culture, de la musique, alors que le post-punk reconfigure peu à peu le courant dominant en Grande-Bretagne. Angela est scotchée, par exemple, quand le 19 octobre 1978 à Londres, elle tombe sur un numéro de Tops of the Pops, le hit parade télé de la BBC, avec The Jam, Buzzcocks et Sham 69. Et puis, se rappelle Angela, il y a Public Image, le premier single de Public Image Limited, PIL. Ce disque, dit-elle, avec sa célèbre ligne de basse frénétique, caractérise l'ambiance générale de l'époque. Par la suite, l'américaine s'éprendra des Specials, de Madness, de Joy Division, mais de la musique, Angela en fera aussi à Londres, rejoignant l'un ou l'autre groupe comme The Drowning Craze, dont elle sera la chanteuse de leur premier single, Storage Case. Sorti le 24 juin 1981, Storage Case des Drowning Craze sera élu single de la semaine par le New Musical Express et par le Melody Maker. Angela se produira sur scène le temps d'un concert avec ce groupe avant de le quitter pour regagner New York quelque temps. Le band implosera une quinzaine de mois plus tard, en mars 1982, après un concert raté au Heaven, la boîte gay emblématique de Londres, en première partie du travesti Divine. Drôle de combinaison, en tout cas. Drowning Craze, dont le bassiste Simon Raymond sera dès lors accueilli par nul autre que Cocteau Twins. Eh oui. Quant à notre Angela Jagger, de retour à Londres en 1983, elle accompagnera cette fois le collectif de jazz pop Big Bag, un band qui s'était fait connaître avec ceci. Mais une fois notre ex-punk Angela au chant, Big Bag, ça donnera ça. Cette même année 1983, Angela se mariera avec le bassiste surdoué du groupe Big Bag, Simon Underwood. Mariage qui était à tout le moins une nécessité administrative si elle voulait rester en Grande-Bretagne, son visa ayant expiré. Un journal, le New Musical Express, notera que la fête a réuni une poignée de personnalités de la scène rock, dont Johnny Lydon, alias Johnny Rotten, ex-Sex Pistols, et alors leader de PIL, ce groupe qui avait tant embrasé Angela quelque temps plus tôt. Pour ce qui est de Big Bag, la nouvelle orientation prise par le groupe s'avérera peu concluante et il s'éteindra la même année, Angela Jagger et Simon Underwood formant l'éphémère formation Instinct, produite par ZTT, le label de Trevor Horn. Pour en revenir à ce qui nourrit de son, d'énergie et de liberté le cœur de son livre « I Feel Famous Punk Diaries » publié par H&B et comme Angela l'a récemment affirmé, le mouvement punk a été tout à la fois le fondement de son parcours et son salut, l'influençant tout au long de sa vie créative. « Le punk est arrivé au bon moment pour moi, j'en avais vraiment besoin. Les choses ne durent qu'un temps, mais perdurent dans l'esprit. » Et c'est ainsi que se termine notre voyage aux côtés d'Angela Jagger. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, eh bien, faites-le savoir, partagez-le, étoilez-le. Belle journée ou bonne nuit. Radio
Caroline. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.